En ce début du XVIe siècle, sous l'impulsion du roi François Ier, qui voulait, disait-il, réformer l'Église et ôter beaucoup d'abus, de nombreux synodes diocésains s'étaient déjà tenus à travers la France. Nommé en 1532 évêque de Bayonne, Étienne Poncher, dès l'année suivante, convoquait un synode diocésain à l'exemple de son oncle Étienne Poncher, archevêque de Sens, qui venait d'en présider un pour sa province. À Bayonne, ce n'était pas la première fois que se tenait un synode. La tradition voulait qu'une telle réunion de tous les curés autour de leur évêque se fît au moins une fois par an. Mais jamais, à la suite d'un synode, n'avaient été rédigés ni publiés des statuts, c'est-à-dire un ensemble de lois et de directives particulières applicables au diocèse de Bayonne. Dans l'introduction de ceux qui le furent après le synode de 1533, il est dit que notre diocèse n'avait pas bénéficié jusque-là de ces lois locales et le manque de statuts synodaux se faisait beaucoup sentir. Chose assez surprenante, l'évêque Étienne Poncher ne semble pas avoir présidé lui-même ce synode. Il avait choisi dans son entourage un personnage appelé Thibaut de Montflet, qu'il avait nommé vicaire général et envoyé à Bayonne avec la mission d'y promulguer les statuts. Thibaut de Montflet se présente lui-même comme un étranger. Et pour rédiger le texte des statuts, nous dit-il, il a utilisé les compétences d'un homme remarquable en tout point et fort savant, Dominique d'Onciondo, vicaire général pour la partie navarraise du diocèse. C'est lui qui l'a renseigné sur l'état du diocèse. Le 28 mai 1533, donc, Thibaut de Montflet fit au clergé rassemblé une lecture sommaire et rapide des statuts qu'il avait rédigés. Après les avoir entendus, les prêtres désignèrent par archiprêtré quelques délégués, hommes de bon sens et de science, pour lire et réviser le texte avec pouvoir d'ajouter, de retrancher et de modifier ce qui leur semblait opportun. Parmi les prêtres choisis ainsi pour mettre la dernière main au statut synodaux, se trouvait Bernard de Chepard, recteur de Saint-Michel-le-Vieux en Galatie, l'auteur du premier livre imprimé et publié en basque avec un titre latin, Linguae Vasconum Primitiae, prémices de la langue des Basques, un recueil de poèmes religieux et profanes. Il avait été désigné avec Dominique d'Osciondo pour représenter au synode les archiprêtrés situés dans le royaume de Navarre. Si l'on considère le contenu de ces statuts diocésains, une constatation s'impose. Alors que les statuts adoptés dans beaucoup d'autres diocèses consacrent une place importante aux problèmes de foi et de doctrine, parce que ces problèmes étaient déjà urgents dans de nombreuses régions de France, ceux de Bayonne n'évoquent pas du tout ces questions. Sans doute parce que l'influence de l'enseignement de Luther et de Calvin ne se faisait pas sentir au Labour ni en Basse-Navarre. À travers les dispositions disciplinaires retenues dans ces statuts, on peut, je crois, saisir quelques aspects de la vie chrétienne des fidèles. Par exemple, l'importance des cadeaux que l'on faisait pour les baptêmes, les mariages ou les premières messes. Les statuts dénoncent en particulier l'habitude que l'on avait de faire appel, pour le baptême, au parrainage d'ecclésiastiques, non pour des considérations religieuses ni même par simple amitié, mais en raison des cadeaux qu'un homme d'église riche pourrait faire à son filleul. Les cadeaux ne sont pas supprimés dans les statuts, mais il est établi un tarif officiel qu'il ne faudra pas dépasser. Les statuts abordent également la question de la communion et de la confession des enfants. L'âge de la communion, la première communion, est celui de la puberté. Mais on peut admettre les enfants à la communion dès qu'ils savent distinguer le pain spirituel du pain matériel. Pour la confession des enfants, voici comment s'expriment les statuts. Il faut amener les enfants à se confesser dès qu'ils sont capables de faire le mal, non pas par la terreur ou les menaces, mais plutôt par des encouragements et des friandises, pour qu'ils s'habituent à n'avoir pas peur plus tard de se confesser, comme le font la plupart qui ne se confesseraient jamais, disent les statuts, s'ils n'avaient pas la crainte du commandement de l'Église. C'est surtout le mariage qui retient l'attention du législateur dans le chapitre des sacrements. Il a en effet appris que dans plusieurs endroits, pratiquement tous les mariages étaient clandestins, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas célébrés, comme on disait, en face de l'Église. L'évêque était résolu, comme il écrivait, à extirper complètement une coutume aussi diabolique, à apporter un remède à cette maladie pestiférée. Il ne semble pas que Thibaut de Monflet ait été mis bien au courant de la cause probable de ces mariages clandestins, ni de l'importance de l'autorisation parentale pour convoler en juste noces exigée par le droit successoral basque. Les statuts abordent également le problème des fêtes chômées. Ces fêtes, qui devraient favoriser le service du Seigneur, disent les statuts, se passent en danse, jeûne, théâtre, volupté et chant lascif, si bien que les jours de fête, Dieu est offensé et la société troublée plus que les jours ouvrables. C'est le grand nombre de fêtes qui doit être mis en cause. Elles sont, ces fêtes, de plus en plus une charge insupportable pour les pauvres et pour ceux qui ont peu de moyens. Si bien que, ne pouvant pas travailler, ils sont amenés à mendier ou même à voler. Il faut par conséquent diminuer le nombre et laisser à l'initiative des fidèles et à leur dévotion le soin de célébrer certaines fêtes qui ne seraient pas d'obligation, quitte à être plus exigeant pour les autres. Des peines d'amende seraient prévues pour ceux qui ne les respecteraient pas. Mais afin de ne pas donner tout de même l'impression de favoriser une diminution du culte divin, on inviterait quand même les fidèles à assister à la messe ces jours-là, mais après, ils pourraient travailler sans commettre de péché. Les statuts donnent la liste des fêtes qui demeurent de précepte. En plus des dimanches, il en reste tout de même encore plus d'une trentaine. On peut dire en conclusion que ces statuts sont marqués au coin de la modération et d'un zèle pastoral avisé, avec également, comme nous venons de le voir, quelques soucis de justice sociale. Quelle fut l'influence des statuts de 1533 sur la vie du diocèse? Il était évidemment impossible de le dire. On peut en tout cas douter sérieusement de l'efficacité des dispositions contre les mariages clandestins. Les successeurs d'Étienne Poncher vont se heurter aux mêmes difficultés. On aurait aimé également savoir si d'autres dispositions intéressantes furent mises en œuvre, par exemple, si celles qui prévoyaient la constitution de fabriques pour l'administration des paroisses, et d'autres encore de caractère encore plus immédiatement pratique, comme celles qui demandaient la fermeture des églises la nuit, mais aussi le jour, en dehors du temps des offices, pour éviter les vols et les sacrilèges, pour empêcher également les bêtes d'y pénétrer. Les statuts de 1533 ne pouvaient pas prévoir les difficultés et les problèmes qu'allaient bientôt entraîner, même dans l'église de Bayonne, les idées réformatrices qui voyaient le jour à ce moment-là. Nous en parlerons la prochaine fois.